le magazine des Nations Unies.
Femmes meurent en accouchant en RDC. C'est trop, estime l'Organisation des Nations Unies pour la Population, UNFPA, à l'occasion de la célébration ce samedi 11 juillet de la Journée mondiale de la population. Un chiffre qui interpelle, en même temps, appelle à la mobilisation des énergies pour s'occuper davantage de populations et notamment des femmes et jeunes filles. La représentante de l'UNFPA en RDC est notre invitée ce dimanche. La RDC devant le Conseil des droits de l'homme en 2016 pour présenter son rapport à mi-parcours dans le cadre de l'examen périodique universel. Des experts de l'OIF étaient à Kinshasa la semaine dernière pour aider les Congolais à préparer cette échéance en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'actualité, c'est aussi la lutte de l'OMS contre le tabagisme. Elle propose le renforcement des mesures fiscales pour combattre efficacement l'usage du tabac. Explication à suivre tout à l'heure.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. 846 000 femmes meurent en donnant la vie. 40 000 cas de fistules par an en RDC. C'est le tableau sombre présenté le mercredi dernier au cours de la conférence des presse hebdomadaires des Nations Unies à Kinshasa. C'était dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population, célébrée le samedi 11 juillet. Jean-Pierre Elali Koko a assisté à ce rendez-vous avec la presse.
Selon Madame Diene Keita, toutes les actions des agents des Nations Unies convergent sur les questions de population. Ceci est d'autant plus important que l'équipe pays et ses partenaires ont formulé tout un programme, un plan humanitaire complet 2015, un plan abordant tous les sujets liés à la vulnérabilité des populations et à des situations d'urgence. Et un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des populations.
J'aimerais peut-être focaliser juste sur le point 3, qui est le renforcement de la capacité des populations à avoir une bonne résilience dans les cas de situations humanitaires, dans les cas de populations déplacées, dans les cas de catastrophes naturelles, etc. Je crois que la résilience est vraiment la chose la plus importante pour ces populations. Mais comment l'obtient-on? Comment y arrive-t-on? Ça, c'est la véritable question. Et lors des journées de population, toutes autres journées des Nations Unies, on doit nous assurer que les actions que nous prenons au niveau du pays tendent vers cela.
La situation des femmes et des jeunes filles est préoccupante. 846 000 femmes ont perdu la vie en donnant naissance en République démocratique du Congo, même si 80% des accouchements s'effectuent dans un centre hospitalier.
Il y a dans ce pays 846 000 femmes qui meurent en essayant de donner la vie pour 100 000 naissances vivantes. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc toute action en faveur des populations est toujours intéressante. Et cette population-là, ça doit être l'action envers les femmes et les jeunes femmes en priorité.
Qu'est fait alors l'Organisation des Nations Unies pour la Population pour tenter de renverser la tendance? La représentante de cette organisation en République démocratique du Congo répond.
Donc la question, c'est la qualité des services fournis. C'est la qualité du personnel médical. Ce que nous faisons avec nos partenaires, nos bailleurs de fonds, c'est de renforcer justement cette qualité-là. Il y a la formation des sages-femmes et des accoucheurs qui se fait, et également des médecins auxquels nous contribuons énormément.
Un autre aspect abordé, c'est les recensements de la population qui est une urgence stratégique.
Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas eu de recensement depuis 30 ans, un peu plus maintenant. Et si nous voulons que ce qui est urgence aujourd'hui ne soit pas urgence demain, il faut commencer à compter les gens aujourd'hui.
Quel est alors l'apport de l'Organisation des Nations Unies pour la Population? Pour Madame Diene Keita, c'est une question de souveraineté pour le gouvernement de la RDC. Son organisation apporte un appui technique.
Le recensement en RDC compte environ 1,50$ par personne. Et la politique des Nations Unies par rapport au recensement, c'est qu'au moins 60% des ressources doivent être venues des ressources nationales. C'est une question d'appropriation nationale. C'est une question de souveraineté. Nous, en tant que Fonds des Nations Unies, nous sommes mandatés par les agences pour appuyer cela au niveau scientifique et technique.
Pour rappel, la Journée mondiale de la population, JMP, est née avec la célébration de la journée des 5 milliards de personnes le 11 juillet 1987. Par la suite, en 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de célébrer la JMP le 11 juillet de chaque année et d'organiser bien entendu des activités y afférentes afin de sensibiliser davantage aux questions de population.
De la population à la santé, il n'y a qu'un pas. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, en lutte contre le tabac. Le tabac qui serait, selon cette agence, l'une des principales causes des décès, de maladies et d'appauvrissement dans le monde. Pour réduire l'ampleur de ces phénomènes, l'OMS propose une recette. Honoré Missenga.
Il faut prélever des taxes à un niveau suffisamment élevé sur les cigarettes et les produits du tabac. C'est de cette manière que l'Organisation mondiale de la santé OMS croit réduire la consommation de ces produits et sauver ainsi des vies. Dans un communiqué de presse daté du 7 juillet à Manille, l'OMS se base sur son rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme 2015. La hausse des taxes sur les produits du tabac est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour réduire la consommation des produits qui tuent tout en générant des revenus substantiels, déclare dans ce rapport le docteur Margaret Chan, directeur général de l'OMS. 33 pays prélèvent des taxes représentant plus de 75% du prix des ventes au détail d'un paquet de cigarettes, lit-on dans ce même rapport. Mais l'OMS regrette que de nombreux autres pays continuent de maintenir des taux de taxation extrêmement bas. Certains autres même n'auraient instauré aucune taxe spéciale sur les produits du tabac. Le rapport cite les cas de la Chine et de la France. Des données de ces pays montrent que la hausse des prix des produits du tabac associée à l'augmentation des taxes entraîne une baisse de la prévalence du tabagisme et des effets néfastes associés tels que les décès par cancer pulmonaire. Le directeur de l'OMS invite alors tous les gouvernements à examiner les données factuelles et non les arguments de l'industrie, estimant que cette stratégie constitue l'une des meilleures options politiques gagnant-gagnant à la disposition du secteur de la santé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
En prévision de la présentation en 2016 par la RDC de son rapport à mi-parcours à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les membres du Comité interministériel des droits de l'homme ont suivi du 6 au 10 juillet à Kinshasa une formation sur les techniques d'élaboration de ces documents. Une formation assurée par une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Albert Pinda, secrétaire permanent du Comité interministériel des droits de l'homme, parle de la mission de cette structure gouvernementale en rapport avec l'EPU, examen périodique universel. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Albert Pinda, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet de votre présence dans ces lieux?
En fait, nous sommes dans un atelier pour la préparation des outils qui nous pourront nous servir à préparer le rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations que la RDC a acceptées devant le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme.
C'était des recommandations faites à quelle occasion?
Il existe aux Nations Unies, au niveau du Conseil des droits de l'homme, un mécanisme appelé examen périodique universel EPI. Cet examen consiste à évaluer tout État, toute nation membre des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme. Et chaque État est appelé à présenter un rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Et la RDC a présenté ce rapport l'année passée, le 29 avril 2014, devant le Conseil des droits de l'homme. Et à cette occasion, plusieurs recommandations ont été adressées à la RDC, plus de 200, et notre pays a accepté 190. Présentement là, nous avons déjà préparé un plan de mise en œuvre et l'année prochaine, nous avons déjà adressé un rapport au Conseil de l'Homme sur la mise en œuvre de ces recommandations, un rapport à mi-parcours.
Cette revue-là pour chaque pays, vous avez dit que la fois passée c'était en 2014 pour la RDC et la prochaine fois?
La prochaine fois ce sera en 2018. Donc en 2018, nous allons présenter notre rapport sur la situation des droits de l'homme et de deux, ce rapport devra comporter la mise en œuvre de toutes les 190 recommandations acceptées.
Les grandes recommandations portées sur quoi?
Il y a des thématiques, par exemple sur le violence sexuelle, il y a plus d'une trentaine de recommandations. Il y a des recommandations qui se rapportent à l'implication des enfants dans conflits armés. Il y a des recommandations sur la ratification des conventions internationales. Il y a des conventions sur la création de la CNDH, mais qui est déjà opérationnelle à ce jour. Il y a des recommandations qui se rapportent pratiquement sur toute la vie nationale, sur les élections, sur tous les droits civils, économiques, politiques.
Quel est le rôle du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans la préparation de ce rapport?
En fait, le Bureau conjoint est un partenaire qui accompagne le ministère de la Justice des droits humains dans le processus de rédaction des rapports gouvernementaux qui sont adressés aux Nations Unies.
Et mais il fait quoi exactement? C'est un partenaire et il vous accompagne concrètement de quelle manière?
C'est un accompagnement d'abord technique. Il nous accompagne par exemple pour la collecte de données, pour la rédaction des rapports. Il nous accompagne en nous fournissant quelques supports qui nous permettent de bien rédiger nos rapports.
C'est l'OIF qui assure l'atelier.
L'OIF a élaboré un programme pour accompagner tous les États francophones dans la rédaction de rapports que ces États doivent soumettre au Conseil des droits de l'homme. Ils ont été dans 10 pays francophones, spécialement des pays africains. Ils viennent du Niger, de la Côte d'Ivoire tout récemment. Et bon, cette fois-ci, ils sont en RDC pour accompagner le comité interministériel afin de pouvoir préparer un bon rapport à mi-parcours. Donc, ils viennent partager avec nous les outils nécessaires selon les standards internationaux qui peuvent nous aider à préparer un rapport, un plan national et à faire un suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations qui ont été acceptées par notre pays.
Votre structure, c'est le comité interministériel en dehors de la rédaction des rapports. Est-ce que cette structure a une autre mission, d'autres tâches?
Oui, le comité interministériel des droits de l'homme est une structure gouvernementale qui fonctionne au sein du ministère de la Justice et des droits humains, qui a pour mission principale de rédiger tous les rapports gouvernementaux des droits de l'homme, les rapports qui sont transmis et envoyés aux Nations Unies, et de faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations que les Nations Unies formulent à la RDC dans le cadre des droits de l'homme.
Dans cet exercice de préparation de la rédaction des rapports, est-ce que vous associez les ONG des droits de l'homme?
Dans tous nos rapports, lorsque nous avons préparé le rapport, avant de le transmettre à notre autorité, qui est le ministre de la Justice des droits humains, nous validons le rapport avec la participation des ONG des droits de l'homme. Nous les invitons dans nos ateliers de validation et ils nous donnent leur avis et leurs considérations qui sont prises en compte.
Vous prenez aussi en compte leurs informations?
Oui, déjà au niveau de la collecte de données, nous approchons les ONG et nous partageons certaines informations. De même que lors de la validation du rapport, ils viennent nous donner des avis sur tel ou tel point qui sont généralement pris en compte.
Je reviens aux recommandations qui ont été faites à la RDC l'année passée. Vous avez dit qu'il y avait plus de 200. La RDC a retenu 190 et a récité d'autres.
Oui, on est en droit de rejeter des recommandations dont on estime, par exemple, que cela n'est pas conforme à nos coutumes, pas conforme à nos lois. Donc, il y a des recommandations dont nous ne sommes pas d'accord et que nous rejetons au niveau du Conseil des droits qui sont formulées par les autres États.
Monsieur Albert Rampin, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à la mission que vous êtes en train d'accomplir?
Un dernier mot, c'est pour remercier là, nos partenaires de l'EIF et du Bureau conjoint qui nous accompagnent dans ce programme au niveau du comité interministériel. Nous sommes là pour remplir les obligations internationales de la RDC. La RDC a signé toute une série de conventions internationales et selon les dispositions de toutes ces conventions sur les droits de l'homme, il faut faire des rapports sur la mise en œuvre de ces conventions. Et c'est la tâche que nous nous acquittons au niveau du comité interministériel, c'est de pouvoir honorer les engagements internationaux que notre pays a souscrits au niveau des Nations Unies.
Albert Mpinda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Des nouvelles en bref. D'abord, nous commençons par la visite en RDC cette semaine du 5 au 9 juillet de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Une visite effectuée dans le cadre du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'étape de Kinshasa, M. Saïd Djinnis a rencontré les autorités gouvernementales, dont les ministres des Affaires étrangères, avec qui il a discuté de la préparation d'une conférence sur l'investissement du secteur privé pour la région des Grands Lacs. À Kinshasa, l'envoyé spécial s'est aussi entretenu avec les responsables de la MONUSCO, des agences du système des Nations Unies et des membres du corps diplomatique des pays signataires de l'accord cadre avant de s'envoler pour Kisangani en province orientale où il s'est entretenu avec les ex-combattants FDLR. Autre nouvelle à Dungu, toujours en province orientale, 18 cadres et agents de la police nationale congolaise formés par UNPOL, la police de la MONUSCO, en matière de la psychologie des foules. Il s'est agi d'une séance de renforcement des capacités dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Enfin, volet humanitaire, selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, 13 000 personnes de la localité de Maimoya se seraient déplacées le 26 juin dernier vers Eringeti, Komanda, Samboko et Oicha. Maimoya est à plus de 50 km au nord de la ville de Beni, au nord Kivu. Information annoncée mercredi dernier à Kinshasa au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Ces déplacements seraient causés par une attaque d'hommes armés, précise la source.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Prendre soin des gens, c'est ça qui évite la violence. La violence, elle est verbale, physique, morale. Ces paroles ne viennent pas de moi, c'est plutôt une déclaration de Madame Diéné Keïta, représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, dans un message adressé à la population congolaise à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Ce message, Madame Diéné Keïta l'a adressé au cours d'un entretien avec Honoré Missenga Kalala. Suivez plutôt cet entretien.
Madame Diéné Keïta, bonjour.
Bonjour.
Madame, le 11 juillet est consacré à la Journée mondiale de la population. Quelle est la particularité de cet événement cette année?
Cette année, la Journée mondiale de la population sera centrée sur les populations vulnérables en situation d'urgence. Ce qui veut dire qu'on va se concentrer sur toute la population qui a besoin de l'aide, de l'assistance d'abord des nationaux, mais également de l'assistance des partenaires au développement que nous sommes.
Et c'est sous quel thème que sera célébrée la journée?
Population vulnérable en situation d'urgence.
Par rapport aux réalités congolaises, quelle est la thématique?
Merci pour la question. La thématique est de plusieurs ordres. Comment faire pour que les populations, par exemple, que la RDC reçoit, comme les populations burundaises, aient les, comment dirais-je, l'appui qu'il faut? Comment faire que la population congolaise elle-même, déplacée ou en situation de difficulté de pauvreté, puisse également recevoir l'assistance qui se doit? Mais à part cette urgence, on a aussi l'urgence sociale qui est du fait de la pauvreté. Comment toutes les populations jeunes ou les femmes ou les hommes vulnérables peuvent avoir de quoi manger tous les jours, de quoi se vêtir tous les jours et de pouvoir aller à l'école et d'avoir les soins nécessaires.
Madame, c'est peut-être l'occasion de parler de la mission de votre organisation.
Merci de me donner cette occasion. Le Fonds des Nations Unies pour la Population est l'organisation qui s'assure que chaque femme puisse accoucher sans danger. C'est extrêmement important. Et également que les jeunes puissent avoir des choix. Les choix, ça veut dire quoi? Pas simplement grandir, manger, mais d'abord être en bonne santé, recevoir en tant que petit les vaccins qu'il faut, et ça, c'est l'UNICEF qui s'en charge. Et ensuite, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, s'assurer qu'ils ont un bien-être dans la santé sexuelle et reproductive, qu'ils puissent planifier leur vie et leur famille sous des principes très clairs qui leur permettent de faire des choix. Il ne faut pas de hasard, il faut qu'ils puissent avoir le choix. Et c'est ça le mandat de UNFPA.
Oui, et par rapport à ce mandat, qu'est-ce que vous faites concrètement en RDC?
Concrètement, on fait tellement de choses. Le plus grand, que tout le monde ne voit pas toujours, c'est le recensement général de la population. On accompagne le gouvernement de la RDC par des équipes techniques, des gens compétents, pour faire les calculs et les analyses nécessaires pour qu'on puisse faire finalement cet exercice dans ce pays, avec d'autres donateurs qui aident à financer cela. À part ça, on lutte aussi contre la mortalité maternelle. Vous savez que le taux est très élevé en RDC et on essaie justement de s'assurer que des soins de qualité puissent être fournis aux femmes dans les endroits les plus reculés de la RDC. Et encore une fois, le pays est tellement grand que nous avons d'autres partenaires tels que l'USAID, tels que le Canada, tels que le Japon ou la Suède, sans compter les agences des Nations Unies qui nous appuient dans ce travail-là.
Vous avez certainement aussi des actions dans le cadre de la planification familiale.
Absolument. Vous savez, pour lutter contre la mortalité maternelle, pour que les femmes ne meurent plus en donnant la vie, l'une des premières grandes actions, c'est de s'assurer qu'elles n'arrivent pas à cela, qu'on planifie avant, que les jeunes aient le temps d'être des jeunes, que les jeunes filles aient le temps de jouer, qu'elles aient le temps de grandir et de se marier quand l'âge normal de se marier arrive, quand leur corps est prêt à accepter un autre être humain. Et à ce moment-là, elles peuvent faire des enfants viables, en bonne santé, et qui leur permettent elles aussi de vivre leur vie et de participer à l'économie de leur pays et de contribuer.
Il y a certainement aussi des actions particulières par rapport aux jeunes filles.
La jeune fille adolescente est notre priorité parmi toutes, parce qu'elle est la quintessence de la société. Quand la jeune fille réussit, la société entière qui réussit, parce qu'elle est porteuse de vie, mais elle est aussi porteuse d'espoir et de soutien pour sa famille.
Vous avez parlé du recensement parmi vos missions. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait 30 ans, vous l'avez dit à la conférence, que la RDC n'a pas fait le recensement. Qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport au recensement qui doit venir?
La RDC n'a pas fait de recensement depuis 30 ans. Et ça, comme je dirais, c'est le cliché. Mais vous savez, depuis les 10 dernières années, il faut reconnaître que la RDC a beaucoup travaillé, a beaucoup progressé. Et je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le Fonds des Nations Unies a accompagné le gouvernement dans les études techniques et qualitatives. C'est très complexe. Et j'ai le plaisir de vous annoncer maintenant que, sous le leadership de ce gouvernement, on y arrive presque. On y arrive là. On a fini la cartographie. On a presque bouclé le financement total. Et je pense que d'ici les mois à venir, et pour ne pas dire l'année à venir, on fera de bons résultats dans ce domaine.
Le financement total qui est de combien? Il y a 2 ans, on disait que le FNAP devait 5 millions de dollars dans ce projet.
Oh oui, si c'est 5 millions, on a largement mis les 5 millions. Mais 5 millions, c'est des bonbons, si je puis me permettre de dire. C'est des plus gros sous que ça. Pour le recensement, pour un pays comme la RDC, il faut compter environ 1,50$ par personne. Donc c'est environ 140 millions de dollars. 140 millions, la Banque mondiale en a mis énormément, la Banque africaine et les partenaires bilatéraux et les Nations unies. Le UNFPA à ce stade doit avoir mis au moins 6-7 millions dedans. Donc on y est presque, je crois que c'est ça qui est important.
Dernière question madame, par rapport à la journée du 11 juillet, est-ce que vous avez un message particulier à la population congolaise, aux femmes congolaises, aux jeunes filles congolaises?
Oui, j'ai un message et ce message est le suivant. Vous savez, il y a pauvres, pauvres et extrêmes pauvres. Et chacun a moyen d'aider son voisin et sa voisine. Donc mon message n'est pas aux femmes congolaises ou aux jeunes filles congolaises, c'est à la population congolaise. Que chacun regarde à gauche et à droite et voit ce qu'il peut faire pour son voisin, pour son, comment on appelle, pour son petit frère, pour sa petite sœur. Prendre soin des gens, c'est ça qui évite la violence. La violence, elle est verbale, elle est physique, elle est morale. Soyons gentils le 10 juillet, soyons gentils le 11 juillet et faisons tam-tam PF. Crions dehors, il faut du leadership, il faut que j'aie le choix pour planifier ma vie, pour faire un adulte qui puisse contribuer à la société de mon pays.
Donc un message valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes du Congo.
Nous peuplerons ton sol Congo avec une population éduquée, en bonne santé et fière de contribuer au développement de son pays.
Madame Diène Keïta, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Du matériel médical, dont du HCR pour des zones de santé abritant des rapatriés venus du Congo-Brazzaville dans la province de l'Équateur. Ce don a été remis lundi dernier aux structures sanitaires bénéficiaires par l'intermédiaire de l'ONG AIDES, partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les détails avec Paul Richard Malengela.
Cet important lot de matériel médical est composé entre autres des lits de consultation, microscopes, tensiomètres, civières, chariots porte-objets, boîtes de chirurgie, etc. Ils ont été remis par le truchement de l'ONG AIDES, partenaire sanitaire du HCR. C'est en compensation des soins gratuits que ces structures avaient administrés aux rapatriés du Congo-Brazzaville à leur retour. La zone de santé de Lulanga-Bubangi a été la première à bénéficier de ce don, car à peu près 50% de ces rapatriés ont été établis entre 2012 et 2014 à Lulanga-Bubangi, ce qui a valu la gratitude du médecin chef de cette zone de santé, le docteur Jidou Molamba, pendant la réception en Bandaka, car ces matériels, a-t-il dit, vont améliorer la qualité des soins en laissant de côté le peu d'instruments vétustes qu'ils utilisaient jusque-là. 4 autres sites de retour le long de la rivière Ubangi devront ensuite bénéficier de cet appui du HCR, parmi lesquels 2 structures de la zone de santé de Buburu, territoire de Bomongo, une structure à Dongo, territoire de Kungu et une autre à Libenge. Bandaka pour Chamalenge, la radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La rougeole tue en RDC et la question sur l'état de cette maladie est revenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies le mercredi dernier. Vous suivrez la réponse de Yvon Edoumou, chargé des plaidoyers et communications à Ocha.
Roger Marley Lukunga, journal Le Paris et hebdomadaire écho de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, présentement là, comment se présente la situation de la rougeole dans notre pays?
Effectivement, concernant la rougeole en RDC, il faut dire que depuis le début de l'année, c'est une situation assez critique, notamment avec le Katanga qui a près de 15 000 cas. Il y a aussi des cas qui ont été recensés dans d'autres provinces telles que le Maniema et même aussi en province orientale. Les efforts continuent d'être faits par les agences onusiennes, les ONG nationales et internationales. Je pense qu'aujourd'hui il y a un besoin d'augmenter tant les capacités, les investissements que nous mettons dans la lutte contre la rougeole et notamment aussi en termes de capacités humaines. La rougeole, pardon, est un peu comme une urgence oubliée.
Magazine des Nations Unies,
portrait du jour.
Bonjour, je réponds au nom de Ngoï Milambo Alain. Je suis marié à une charmante dame, elle s'appelle Rose Binko Milambo, avec qui jusque-là nous n'avons pas encore d'enfants. Je suis né à Likasi dans le Katanga, et c'est au Katanga que j'ai commencé mes études. Les études primaires dans une école de la Gécamine, cette école s'appelait Changweyetu. Les études secondaires, c'est toujours au Katanga, mais j'ai commencé à Kolwezi, à Mutoshi. C'était un internat et j'ai dû terminer les études secondaires à Lubumbashi, à Salama. Les deux écoles, c'était des écoles techniques. J'ai quitté le Katanga en 1989 pour la capitale pour continuer mes études. Et c'est à Kinshasa où j'ai eu à terminer mes études supérieures à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISA en sigle, comme ingénieur. Et j'ai eu la grâce de commencer à travailler très tôt, avant même que je ne termine les études supérieures, en 1993. Et en 2004, j'ai été appelé à la MONUSCO et j'ai commencé à travailler à la radio Okapi en tant que technicien de radio. Mes tâches quotidiennes consistent principalement au direct de la radio, comme l'émission qui est en train de passer en ce moment, et c'est moi qui mets ça sur les ondes pour que les gens puissent capter cela dans leur maison. Quand j'arrive le matin, soit j'enlève l'automatique parce que très tard le soir on met l'automatique pour que les gens continuent à suivre la radio, et très tôt le matin il y a un technicien qui arrive pour nous mettre le direct, et c'est ça mon travail. J'enregistre les différents sons des émissions, je fais des reportages pour les activités qui se passent en extérieur. Donc bref, c'est un tout petit peu ça mes tâches de chaque jour. Avant d'arriver à la MONUSCO, je disais, en 1993, j'ai commencé à travailler comme technicien de studio dans un petit studio privé. Et en 1995, j'ai commencé réellement comme technicien de radio-télé. J'ai été appelé dans une chaîne de radio communautaire, la radio Sangomalamu. Et c'est là que j'ai eu à passer pratiquement 9 ans comme technicien de radio et technicien de studio. Et là, j'aimerais un tout petit peu signaler, j'ai été formé en journalisme, reportage et tout. Et nous avons eu la grâce de pouvoir conduire la radio pendant 5 ans comme directeur de programme ad interim. Pour mes moments libres, je consacre ce temps à ma famille. J'aime bien ma famille et j'aime beaucoup ma femme. Et j'ai une petite ferme que j'ai commencée où je passe également du temps avec les animaux. J'aime bien la nature. Il y a dans ma petite ferme les dindons, il y a les canards. J'ai plusieurs races. J'ai 3 races de canards. J'ai les rouins, j'ai les pékins et j'ai également les barbaries qui sont des races locales. J'aime bien manger le riz aux haricots. Depuis l'enfance, ça c'est mon plat préféré. Mais tout ce qui est bien présenté, bien préparé, je mange. Je suis sportif pour vous dire simplement que pendant mes moments de loisirs, je passe du temps plus au sport. Et actuellement, nous avons une équipe à la radio et nous nous entraînons avec des amis les samedis. J'aime les bons sons. Pour dire également que j'aime la musique. Et en tant que bon chrétien, j'aime la musique chrétienne. Après la MONUSCO, j'envisage travailler dans l'agroalimentaire pour agrandir ma ferme et penser à autre chose. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Quelques rendez-vous à noter dans votre agenda pour la semaine prochaine. Le 13 juillet, c'est déjà ce lundi, le bureau de l'UNESCO Kinshasa organise un atelier sur la prévention des infractions des presses et des fautes professionnels à éviter en période électorale. Un rendez-vous prévu au Cercle de Kinshasa à partir de 9h30. Autre rendez-vous, le vendredi 17 juillet, ce sera la journée de la justice pénale internationale. Le 17 juillet marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome et c'était précisément le 17 juillet 1998. Merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies. Ce numéro était coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, Honoré Misenga Kalala était au reportage, la mise en onde assurée par Hippolyte Kapanga et Nadine Foulantimba vous la présentait. À la prochaine.